journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Le journal des auditeurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, le Burundi de Pierre Nkurunziza. Les Burundais sont appelés aux urnes le 17 mai prochain pour un référendum sur une réforme constitutionnelle. Ce vote pourrait permettre à Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Outre cette réforme de la Constitution, le président a lancé une campagne dite de moralisation de la société en interdisant notamment le concubinage. Il a également été nommé guide suprême, voire visionnaire de son parti, le CNDD-FDD. Alors que pensez-vous de cette situation ? Peut-on parler de dérive sectaire au Burundi ? Nous en parlerons avec Gratien Rukindikiza, il est président du Rassemblement des Burundais de France et le RDBF. Pour intervenir, composez le 01 55 07 58 00 si vous êtes en France et le 00 33 1 55 07 58 00 depuis partout ailleurs dans le monde. Vous pouvez également en réagir sur notre page facebook.com/journal des auditeurs. Avant de parler du Burundi, on se tourne vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Allô, oui, bonjour, c'est Kouker, j'appelle pour 12 Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est pas ce qu'ils veulent. Alassane, un président comme Alassane qui travaille, les Ivoiriens, ils vont regretter Alassane. Voilà, moi, c'était mon coup de gueule. Merci.
Oui, je suis monsieur Paul, je m'excuse, je suis devant l'ambassade du Cameroun et je n'arrive pas à comprendre comment le Cameroun peut manquer les cartons de passeport. Ça fait 6 mois qu'on demande un passeport au Cameroun. Depuis 6 mois, le Cameroun n'arrive pas à remettre les passeports aux gens. Et quand on demande aux agents qui travaillent là-bas à l'ambassade, ils disent qu'il n'y a pas de carton au Cameroun, que le Cameroun est en rupture de carton. Et le Cameroun n'a pas d'argent pour acheter les cartons. N'a pas d'argent pour acheter les cartons avec lesquels on fait les passeports. Je ne sais pas. Et ici à Paris, nous sommes coincés. Qu'est-ce qu'on fait? C'est terrible. C'est pourquoi je laisse ce message à Africa No. 1 pour qu'il puisse, que ça puisse interpeller les dirigeants du Cameroun là, pour qu'on puisse remettre les passeports aux gens. Ça c'est bizarre, 6 mois, on demande un passeport, six mois on n'arrive pas à avoir le passeport. Merci.
Bonjour Madame Hartmann.
Ok.
Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'opération Épervier qui permet de lutter contre la corruption ou contre les prédateurs des biens du Cameroun. Cette opération, malheureusement, ne fait plus peur à personne. Pendant que un est mis aux arrêts, il y en a 10 derrière qui volent. Et malheureusement, ceux qui sont pris viennent d'une même ethnie, viennent d'un même clan et viennent d'un même village. Ce qui suppose que tous les postes de responsabilité sont aux mains d'une même personne, sont aux mains d'un même clan, d'un même village, le village Béti, celui de monsieur le président Paul Biya. Je voudrais dire que quand on fait le cumul des fonds que ces gens-là ont pu mettre dans les paradis fiscaux, ces fonds sont supérieurs même au budget de l'État. Ce qui veut dire que ces gens sont la menace même de notre État. Bonne journée à vous. Au revoir.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour aux auditeurs d'Africa numéro 1, c'est Oleg. Je voulais intervenir aujourd'hui sur la Guinée encore pour vous dire la dernière trouvaille du gouvernement guinéen, aussi se disculper de 94 jeunes qu'ils ont tués lors de manifestations pacifiques. Donc le gouvernement guinéen, sa dernière trouvaille est de dire que c'est l'opposition qui tirait sur ses propres manifestants. Vous imaginez un peu une armée qui est en guerre et le général décide de tirer sur ses soldats. Donc la dernière trouvaille du gouvernement M. Alpha Condé. L'opposition a demandé dans ce cas de mettre en place une commission d'enquête indépendante. Ils refusent. Donc s'ils ont des preuves qui disent que c'est l'opposition qui tire sur ses propres manifestants, pourquoi refuser une commission d'enquête indépendante qui va les départager, ils donnent leurs preuves et puis voilà, si c'est le cas, bon, et tout le monde saura. Donc pourquoi ils refusent? Je rappellerai aux gens que M. Alpha Condé, en 2011, a prétendu avoir été attaqué dans son domicile privé et que la personne, le commanditaire, qui était du parti de l'opposition, qui était vice-président, a bénéficié d'une grâce et aujourd'hui travaille avec lui, puisqu'il s'oppose maintenant à son leader dans le même parti, l'UEDG. Donc vous imaginez. Donc on se pose la question, est-ce qu'en 2011 aussi, c'était une vraie attaque? Parce que si c'est quelqu'un qui a voulu vous tuer, alors que le procès n'est pas fini, je vous dis, déjà vous la graciez et que vous travaillez avec la même personne qui a voulu vous tuer quelques années auparavant, alors on se pose des questions. Donc voilà, la Guinée a toujours été un pays des complots de toute façon. Donc un de plus ou de moins, bon, et les ridicules ne tuent pas. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages et merci à Mandilé Pofou pour la sélection de ces messages. Justement, aujourd'hui dans le JDA, les dérives sectaires du président burundais Pierre Nkurunziza, près de 3 ans après le début de la crise politique et la réélection controversée de Pierre Nkurunziza, le pays semble dans l'impasse et vit au rythme des délires mystiques et footballistiques du président. Nous en parlons tout de suite avec Gratien Rukindikiza, président du Rassemblement des Burundais de France. Gratien Rukindikiza, bonjour.
Ah, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Gratien. Alors récemment, le CNDD-FDD a fait de Pierre Nkurunziza son guide éternel, voire son visionnaire, lit-on ici et là, et reprend dans son argumentaire un vocabulaire mystique. Je le parlais tout à l'heure des hippopotames qui se calmeraient sur son passage. Sa femme, Denise Nkurunziza, également pasteur de l'église du Rocher, a quant à elle, dans ses prêches, estimé que le président avait été élu par Dieu et que seul Dieu pouvait le destituer. Première question, Gratien Rukindikiza. Après avoir fait taire finalement toute opposition, le président se sert-il de la religion pour asseoir un peu plus son pouvoir au Burundi ?
Oui, ce n'est pas la première fois qu'il se sert de la religion, parce que même quand il a été élu la première fois, il a dit que ce ne sont pas les gens, les Burundais qui ont voté pour lui, mais c'est le Dieu qui a voté pour lui. Et cette fois-ci, en fait, il veut utiliser le Dieu, non pas pour asseoir vraiment sur les opposants, son pouvoir sur les opposants, mais c'est surtout, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de marquer un coup sur certains prétendants au trône, au pouvoir du CNDD-FDD. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a des ambitieux autour de lui. Il veut marquer vraiment le terrain, le territoire, pour qu'il n'y ait plus personne qui pense à son poste.
Alors justement, comment est perçu ce mysticisme, reçu ce mysticisme par la population ? Est-ce que ça prend ? Est-ce que ça marche ? Ou est-ce qu'on fait semblant d'y croire ?
Non, ça ne marche pas du tout. Il faut savoir déjà que le Burundi est un pays catholique presque à 80%, 70-80%. Et Nkurunziza, il est de religion protestante, où il s'est converti à la religion protestante. Et les protestants ne sont pas nombreux dans le pays, mais ce qu'il essaie de faire, c'est de pousser tous les Burundais à être des protestants. C'est notamment quand il fait des rencontres dans tout le pays, il sillonne le pays. Il le fait sous l'angle du protestantisme, ce qui énerve beaucoup les catholiques. Donc, ce qui fait que ça ne tient pas. Et même les protestants savent bien que c'est du pipeau, ça ne tient pas debout parce qu'un homme ne peut pas s'improviser, incarner le Dieu. Donc, tout le monde sait bien que c'est un dictateur qui se cache derrière un truc mystique, mais en même temps, il n'a jamais fait de révélations spectaculaires, à part il est soutenu par sa femme qui vient d'être pasteur.
Alors, on va se tourner vers le standard dans quelques instants. Écoutez, nous dire une dernière question. Il a également lancé une campagne de moralisation de la société en interdisant notamment de concubinage. Est-ce que ces campagnes donnent lieu à des atteintes aux droits humains ? On a vu des couples humiliés en public.
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, ils touchent sur un... Vous savez, il y a des Burundais, par exemple, qui n'ont pas assez d'argent. Pour avoir une femme au Burundi, il faut la dot. Et la dot, c'est beaucoup d'argent. Je dirais même, c'est pratiquement une vache. Le minimum, c'est une vache. Il y a des familles et des gens qui n'ont pas assez de richesses pour doter. Et donc, des fois, qui préfèrent vivre avec des femmes, une femme, sans qu'il y ait vraiment dot et mariage derrière. Donc, maintenant, ils s'attaquent à ces gens qui habitent ensemble, en concubinage, vous savez, ça se pratique presque partout. Mais cette fois-ci, c'est qu'il le fait sous l'angle de la religion. Et d'ailleurs, il s'attaque d'abord aux membres du parti du CNDD-FDD, qui sont obligés maintenant de reconnaître les enfants qu'ils ont eus en dehors de leur famille, de leur couple, donc pour qu'ils les ramènent dans leur ménage. Sinon, ils vont être, disons, limogé du parti CNDD-FDD. Donc, ce qui fait que vraiment, il s'attaque à des choses qui, culturellement, ce n'était pas un problème au Burundi.
Ouais, il y a d'autres choses qui sont, on parle là du concubinage, donc l'interdiction du concubinage, il y a d'autres choses prévues par ces campagnes de moralisation. Il y a d'autres dispositions ?
Oui, il y a d'autres dispositions, notamment ceux qui ont eu des enfants couples hors mariage, où ils sont obligés, ils seront obligés de les ramener dans leur famille. Vous voyez bien, contraindre des hommes à reconnaître qu'ils ont eu des enfants en dehors de leur mariage, de leur couple, et les ramener. Des fois, il y a des enfants cachés. Donc, vous voyez bien que c'est un... Il veut créer en quelque sorte un désordre au niveau national, un désordre aussi au niveau familial.
On entend, on imagine aussi hein, peut-être des actes de délation où chacun va dénoncer son voisin, en tout cas des incitations peut-être à la délation.
Oui, bien sûr. Oui, ça peut être lié à la religion, aux convictions politiques pour les opposants et aussi des gens du CNDD-FDD qui veulent suivre le président correctement. Ils vont être accusés d'avoir eu des enfants en dehors de leur mariage ou autre chose.
Merci, Gracien Rukindikiza. Restez à l'écoute. On se rend du côté du Tchad. Écoutez un de nos auditeurs, c'est Ozana qui s'est inscrit en laissant un petit message sur la page Facebook. Ozana, bonjour.
Bonjour Stéphanie et bonjour à votre invité.
Bonjour Ozana. Alors quel regard portez-vous sur la situation au Burundi vue du Tchad 3 ans après le début de la crise politique?
Oui, tout d'abord, moi, pour arrêter ou mettre fin au régime des dictateurs, avec des projets machiavéliques, seule la population est capable pour accomplir cette mission. Et donc que l'exemple du Burkina Faso, de la Tunisie nous inspire. Sinon, l'Afrique a besoin d'une nouvelle direction. Et donc, on n'a pas besoin de ces personnes qui n'ont aucun projet pour la jeunesse. Et comme vous savez un peu le cas de notre pays, le Tchad, on vient tout de suite de sortir d'un forum inclusif qui donne un plein droit au président de la République et qui il a encore la possibilité de briguer 2 mandats après la fin de son mandat en 2021. Donc tout ça, moi je dis que c'est une menace pour la jeunesse. Et donc la jeunesse doit se tenir debout et barrer la route à ces présidents qui sont là que, pour leur intérêt. Ces présidents sans vision qui ont pour seul but de s'enrichir au dos des contribuables. Alors il faut que la population prenne conscience et que la population est capable de mettre fin ou de barrer la route à ces présidents vraiment que je qualifie de dictateurs. Vous savez ce qui se passe surtout en Afrique centrale, au Congo, au Burundi, au Tchad, au Togo. Tout ça, c'est le même problème. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour vraiment arracher notre destin. Sinon, on est vraiment menacé, on est à risque, quoi.
C'est très clair. Merci, Ozana. On parlera sûrement d'ailleurs du Tchad demain hein, dans le journal des auditeurs et des réformes institutionnelles des institutions. Gracien Rukindikiza, je reviens vers vous. Ozana a évoqué peut-être des révoltes. Il faut savoir que la population a quand même tenté il y a 3 ans de faire partir Pierre Nkurunziza. Début décembre, on rappelle aussi le coup d'État manqué. Début décembre, une nouvelle session de dialogue s'est ouverte en Tanzanie, mais n'a pas permis un débouché sur aucun accord. Est-ce que actuellement le dialogue inter-burundais est au point mort? Est-ce que finalement Pierre Nkurunziza a gagné?
Bon, on ne peut pas dire que Nkurunziza a gagné, mais ce qu'on peut dire, c'est que le dialogue est au point mort, parce qu'en fait, les pays de l'East Africa Community devaient constater l'échec de la médiation dirigée par le président ougandais Yoweri Museveni, le médiateur Mkapa, Benjamin Mkapa. Donc, le problème, c'est que la sous-région ne devait pas reconnaître, donc a reconduit pratiquement la médiation, alors qu'il n'y a rien qui est en vue. Il faut savoir que le Burundi, si Nkurunziza refuse de négocier, c'est qu'il sait bien qu'il n'aura pas un embargo, comme Buyoya qui avait en certain moment refusé de négocier, on lui a appliqué un embargo et il a accepté en fin de compte de négocier. Mais le problème, c'est que Nkurunziza a un allié de poids, un allié de taille, c'est la Tanzanie du président Magufuli, lequel Magufuli en fait essaie de suivre les pas de l'ancien président Kikwete qui dirige encore, qui est l'homme influent du parti Chama Cha Mapinduzi. Chama Cha Mapinduzi est le parti qui a toujours dirigé la Tanzanie depuis les indépendances. Et le Kikwete, il a des intérêts au Burundi, donc ce qui fait que tout est lié. Donc, Nkurunziza peut dire que finalement...
Gracien Rukindikiza, quel genre d'intérêt a le président Kikwete au Burundi?
Bon, il a des intérêts avec certaines sociétés qui sont dans le domaine, tout ce qui est mine et tout ce qui peut être aussi il y a des intérêts liés à certains, que ce soit le pétrole ou autre. Et
L'économie.
donc, du coup, il peut. Il a aussi. Il faut savoir que c'est Kikwete aussi qui avait aidé les Nkurunziza à accéder au pouvoir quand ils étaient aussi dans la rébellion. Ce qui fait que, bon, Nkurunziza, il peut se dire au moins, là, s'il a la Tanzanie, il peut continuer à jouer de son jeu. Mais jusqu'au jour où il y aura l'Union africaine qui prendra la question en main, ou le Conseil de sécurité, mais le problème, c'est que l'Union africaine est dirigée aujourd'hui par le président Kagame. Or, le président Kagame, il est censé avoir un problème déjà avec Nkurunziza, et puis dans la sous-région aussi, même si l'Ouganda, ils ont essayé d'avoir un accord, il avait déjà un problème avec l'Ouganda, donc il ne pouvait pas s'attirer les ennuis de tout le monde. Ce qui fait disons, il s'occupe pas vraiment de la question burundaise, même s'il est le président en exercice de l'Union africaine aujourd'hui.
Et d'autant que le Rwanda accueille un nombre de réfugiés burundais, c'est vrai qu'on se serait attendu à ce que le Rwanda s'implique un peu plus dans la résolution de la crise. Vous dites c'est pour ne pas se mettre à dos ses pairs dans la région?
Oui, en fait, il faut savoir que le Rwanda a été accusé d'entretenir une rébellion contre le Burundi. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu des attaques à partir du Rwanda. Ce sont des attaques qui sont parties de la République démocratique du Congo. Et Kagame, en fait, il essaie d'éviter surtout de ne pas avoir des problèmes avec la Tanzanie parce qu'il ne peut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Et parce que Nkurunziza étant un peu mystique, voire un homme très dangereux, il peut déclencher une guerre avec le Rwanda pour susciter un soutien de la Tanzanie et éventuellement s'il y avait un problème avec l'Ouganda aussi. Donc le Rwanda serait encerclé. Mais finalement, pour préserver les intérêts du Rwanda, donc Kagame va préférer finalement ne pas vraiment s'impliquer au niveau de la résolution de la question burundaise, même s'il a beaucoup de réfugiés, c'est vrai, il a beaucoup de réfugiés, il aide beaucoup les réfugiés burundais. Par exemple, aujourd'hui, les réfugiés burundais qui sont au Rwanda, ils ont des titres de voyage pour voyager partout sauf au Burundi.
D'accord. On va justement du côté, alors dans la région, on va écouter Pierre qui nous appelle depuis la République démocratique du Congo. Pierre, bonjour. Ah, c'est pas sûr.
Bonjour, madame.
Bonjour Monsieur Pierre, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous nous avez laissé un petit message sur la page Facebook. Quel regard vous portez vous, sur la situation au Burundi?
La situation au Burundi me fait vraiment inquiéter. Et ce qui se passe, c'est déjà comme une coutume pour les chefs d'État africains qui cherchent toujours à mourir sur le fauteuil présidentiel. La situation du Burundi, c'est vraiment antidémocratique. Et ce que je peux demander aux Burundais, c'est de savoir que la liberté ne se donne pas, mais s'arrache. Et moi, je peux appeler les Burundais à être mobilisés et à faire échec à toute proposition de leur président et à la communauté internationale d'aider les Burundais à rétablir la démocratie. C'est vraiment rien. Avec Pierre Nkurunziza, depuis qu'il est au pouvoir, je ne vois pas qu'il y a un changement dans ce pays. Donc, continuer à diriger le pays, c'est mettre toujours le pays dans les gouffres et c'est peut-être endurcir de plus en plus les conditions de vie des Burundais. Il doit savoir qu'il n'est pas le seul Burundais qui peut diriger ce pays. Il faut qu'il y ait quand même un changement.
Merci Pierre, beaucoup de votre contribution. Vous êtes où en RDC?
Je suis en RDC, dans la province du Sankuru.
D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Bonne journée à vous. L'écoute d'Africa numéro 1, bien sûr. Grâce à Rukindikiza, Pierre évoquait la situation des Burundais. Je voudrais déjà dire ceci, parce qu'on parle des délires hein, de Pierre Nkurunziza, mais il faut savoir que pour la seule semaine du 19 au 25 mars dernier, la Ligue des droits de l'homme, ITK, a relevé 44 arrestations arbitraires, 6 personnes torturées, une personne disparue, au moins 5 personnes tuées, dont deux corps sont encore introuvables. L'Union européenne a renouvelé ses sanctions à l'encontre des officiels burundais. Le pays est également sous sanctions économiques. Gratien, quelles sont les conséquences de ces sanctions sur la population et sur la vie économique, j'allais dire?
Oui, il y a des conséquences graves sur la population. Déjà, l'on peut parler du chômage parce qu'il y a beaucoup de projets qui étaient en route, donc qu'il y avait une certaine main-d'œuvre des Burundais, donc les Burundais qui ne travaillent plus, et puis il y a le franc-bout qui se sous-dévalue d'une façon automatique, même sans dévaluation. Il y a les prix, il y a l'inflation, il y a les prix qui augmentent, la pauvreté, les services de l'État qui ne marchent pas correctement, comme la santé, l'éducation. Et il y a un problème général vraiment au niveau de la pauvreté des gens. Et puis les taxes, c'est parce que comme l'État n'a pas d'argent, l'État fait payer les taxes sur tout. Il y a des taxes qui s'improvisent aujourd'hui, comme la taxe foncière dans le monde rural, notamment pour tous ceux qui utilisent la terre, notamment fabrication des briques, ça se faisait des constructions. Et donc aujourd'hui, Nkurunziza essaie de soutirer l'argent qui se trouve dans les poches des Burundais. Et c'est une grande pauvreté, mais je pense que plusieurs Burundais se disent finalement, autant qu'il y ait sanctions pour qu'ils fléchissent, que de renflouer les caisses de l'État pour qu'ils continuent à acheter des armes.
Bon, pour vous, les sanctions restent efficaces et nécessaires, hein?
Oui, les sanctions sont efficaces, nécessaires, mais pas déterminantes. Ouais. Pas déterminantes parce qu'Nkurunziza ne veut pas lâcher. Vous savez, les dictateurs, ils peuvent tenir même si tout son peuple meurt. Le dictateur reste en disant je finirai le dernier, mais il ne va pas accepter de quitter le pouvoir sans qu'il soit contraint de le quitter.
On entendait quelques auditeurs appeler à la mobilisation, en disant voilà, seul le peuple peut faire partir des dictateurs. On l'a dit, la plupart de l'opposition vit en exil. Quels sont aujourd'hui les espoirs des Burundais, Gratien Rukindikiza?
Alors, c'est compliqué vraiment de parler d'espoir pour le moment. Je pense que, contrairement à ce qui s'est passé, il y a un auditeur qui a parlé de Burkina Faso, de Tunisie. Mais au Burkina Faso, il n'y avait pas de milice. Et puis, l'armée, finalement, a suivi le peuple. Et en Tunisie, en certains moments, l'armée a été obligée de lâcher le président. Or, au Burundi, on a une milice comme une milice Interahamwe, comme les milices qui ont soutenu Hitler, SS. Lesquelles milices qui menacent, qui vont jusqu'à menacer l'armée, qui menacent les militaires, qui menacent les policiers. On a aussi une bonne partie de l'armée et de la police qui soutiennent Nkurunziza à fond. Donc, ce qui fait que toute révolte, ces gens-là qui sont arrêtés sont des gens qui tentent de s'organiser. Ils sont déjà tués rapidement. Il n'y a pas de jugement. Toute personne qui est soupçonnée est tuée. On parle des gens de combien, 40, combien, 50. Mais finalement, à l'est du Burundi, il y a des parties du Burundi, des parties reculées du Burundi. Il n'y a plus de statistiques parce que ces gens des droits de l'homme ne peuvent pas y aller. Et donc, du coup, il y a des tueries, des massacres qui se passent en silence dans tout le Burundi. Question d'espoir, on peut compter sur la communauté internationale. Et aussi, je pense que l'espoir viendra du camp d'Nkurunziza, parce que ce sont les militaires, ce sont les proches d'Nkurunziza qui ont la main sur lui, donc qui peuvent influer le changement dans le pays. Mais en réalité, les opposants qui sont à l'extérieur, ils peuvent jouer sur le côté diplomatique, le côté pression, mais sinon, changer le pouvoir en soi, c'est très compliqué.
Et il y a eu parfois, autrefois, si je ne me trompe pas, grâce à Nkurunziza, des oppositions armées. D'ailleurs, on rappelle que le Burundi a connu une guerre civile. Est-ce que la prise des armes est envisagée par une partie de l'opposition? Est-ce que vous craignez cela?
Alors, dans les faits, il y a des gens qui se préparent, Gundi, qui se préparent pour les armes. Et ça fait un moment qu'on entend que ces gens-là se préparent. On ne sait pas exactement, mais l'opposition en soi, je pense que l'opposition civile ne franchira pas le cap. Et pour prendre les armes, pour que, par exemple, le Sénarède soit un mouvement de rébellion en soi, ça sera compliqué même pour le Sénarède, parce que je ne pense pas qu'il soit bien organisé pour entrer dans les maquis, et je pense que chacun a son rôle et ils peuvent encourager ceux qui veulent faire des rébellions, mais en réalité c'est quelque chose qui prendra du temps aussi, parce qu'il faudra avoir une base arrière. Il y a la République démocratique du Congo, où en territoire on peut faire tout ce qu'on veut à l'est, mais il y a le Rwanda qui ne peut pas offrir les bases arrières, il y a la Tanzanie non plus, donc ce qui fait que c'est dans tout ce qu'on a vu dans tous les pays, toutes les rébellions, il y a eu toujours de bases arrières. Mais là, ça pourrait poser un problème à une rébellion burundaise sans base arrière, à moins qu'il y ait beaucoup, beaucoup de soutien à l'intérieur du pays.
Et puis une rébellion, on sait comment ça commence, on sait rarement comment ça finit. On fait un dernier petit tour, Gracien Récunikiza, du côté du Standard. Écoutez nos auditeurs, il y a Olivier qui nous appelle aussi. Olivier, bonjour.
Bonjour Stéphanie Hartmann, c'est Olivier Ngwanza, président de l'association Grand Lac Banalemba et président de tous les ressortissants de la RDC.
J'imagine que vous avez bondi quand vous avez entendu Gracien dire qu'à l'est du Congo, on faisait à peu près tout ce qu'on voulait.
Oui, mais là, je voulais intervenir pour les Burundis, donc ce qu'il a dit là, bon, il a raison de dire, donc ben, je voulais juste intervenir pour la situation de Burundi. Déjà, toutes les décisions que Pierre Nkurunziza il est en train de prendre, c'est vraiment malheureux pour nous les Africains. Donc je ne sais pas si c'est dans les sangs des Africains de rester au pouvoir ou soit de s'accaparer de tout, ça j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'un jour, l'Afrique va se développer et il y aura changement de mentalité au niveau de nos dirigeants. Il y a d'autres décisions qui sont en train de prendre, qui sont positives, mais il y a d'autres qui ne sont pas positives. Je vais attaquer, par exemple, les problèmes de concubinage qu'il a dit qu'il va frapper le concubinage, tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Déjà, on dit que la dot est trop chère au Burundi. Déjà, ils n'arrivent pas parce que les gens ne travaillent pas. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas la possibilité de donner des dots pour avoir la femme officiellement. C'est pour cela qu'ils sont en train de vivre concubinage. Donc, ce que l'État devrait faire, il devrait attaquer ces problèmes-là et non d'interdire aux gens. Je donne l'exemple des lignes.
Vous dites finalement qu'il faut mieux lutter contre le chômage, plutôt que d'empêcher les gens de vivre ensemble
déjà
sans être mariés.
Il faut lutter contre le chômage, donner du travail aux gens. Les gens puissent travailler et avoir un salaire et avoir l'argent pour faire les dots. S'ils n'ont pas l'argent, comment est-ce qu'ils peuvent aller doter une femme? Il ne peut pas. Et les temps passent. L'âge aussi, ça avance, ça ne recule pas.
Mais pensez-vous, Olivier, que le concubinage soit vraiment un problème au Burundi? Est-ce que pensez-vous que ce soit vraiment ça le problème?
Pour moi, c'est pas un problème. Voilà. Pour moi, c'est pas un problème. C'est pas ça qu'il faut attaquer. Il faut attaquer.
Donc, pourquoi, selon vous, Pierre Nkurunziza légifère autour de ça alors que finalement, il y a des choses beaucoup plus graves qui se passent au Burundi?
Il devrait prendre une décision d'alléger la dot au niveau du pays. Donc, alléger la dot, prendre une décision par rapport à ça.
Merci.
Il verra bien que les gens ils vont aller doter les femmes parce que ça coûte trop cher. Je donne l'exemple de l'Inde.
Merci Olivier. Olivier, je vous interroge parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Bon, c'était moins sur le concubinage que sur la situation au Burundi, mais on pourra parler du concubinage si je sens que ça vous intéresse, Olivier. On va écouter Souleymane qui voulait revenir sur le rôle des membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Souleymane, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie, nous sommes pris par le temps et j'aimerais...
Vous avez deux minutes, allez-y.
Voilà, nous sommes pris par le temps, voilà. J'aimerais ici, accuser les membres de l'Est Africa Community. Vous savez, depuis 2015, Pierre Nkurunziza, il refuse tout dialogue, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, même avec la nomination, de Benjamin Mpaka, nous remarquons, que le dialogue inter-burundais, il est bloqué. Au niveau armé, il est bloqué. Au niveau diplomatique, il est bloqué. Et contre vents et marées, Pierre Nkurunziza, dans les pays, il devient de plus en plus féroce. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 27, si je ne me trompe pas.
28.
Je ne peux pas.
28 mars.
Le 28, voilà. Il y a une situation aujourd'hui qui fait le buzz, et comme ce n'est pas des trucs d'actualité comme ça au Burundi, le jeune Simon, qui est un jeune cultivateur qui a refusé de voter au Burundi, de se faire enrôler pour le vote de référendum de mai 2018. Ce jeune a été torturé, il est mort suite à cette torture-là. Je vous conseille d'aller voir sur le journal Iwachu, qui a fait un reportage vraiment inédit. C'est pour vous dire que depuis 2015, nous vivons ce pays, une situation innommable. Nous devons passer de la phase des discours à la répression, diplomatique contre ce régime-là, autoritaire, autocratique de Pierre Nkurunziza, qui ne cesse d'ensanglanter ce pays-là. Je suis sans mots, sans voix. Merci beaucoup, Mme Stéphanie. Je vous donne la parole. Merci.
Merci à vous, Souleymane, d'être intervenu. Souleymane, qui suit depuis, effectivement, de 2015, cette crise au Burundi. Souleymane, rappelez, cher Gracien, les attaques des médias régulièrement. Et puis cette campagne électorale qui doit commencer deux semaines avant le vote, le référendum, c'est le 17 mai prochain. Quels seront les enjeux de ce référendum, Gracien?
Pratiquement, il n'y a pas d'enjeu. Nkurunziza sait bien qu'il aura 100% parce que personne n'a le droit de voter non. C'est un référendum, on n'a pas le droit de voter non. Mais les enjeux pour lui, pratiquement, c'est que il va concrétiser la présidence à vie, il va changer les accords d'Arusha, il va changer la constitution complètement pour que ça soit taillé à sa mesure. Et après, il pourra briguer 4e, 5e, 6e, 7e mandat. Et d'ailleurs, dans la constitution, dans la nouvelle constitution, il est bien marqué que le Burundi peut devenir un royaume. Cela signifie que Nkurunziza pourra devenir le roi, voire l'empereur, comme il pourrait. Vous avez bien comment ça finit, empereur. Donc, tout est prévu pour lui. Donc, ce qui fait que les enjeux, ça annihile tous les efforts pour la réconciliation burundaise, parce que sans les accords d'Arusha, je ne vois pas comment les opposants pourront négocier les accords, une entente avec le gouvernement.
C'est très clair. Merci, Gracien Rukindikiza, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement des Burundais de France. Merci beaucoup, Gracien. Alors, vous parliez d'empereur, justement. Il y a un auditeur sur facebook.com/journal des auditeurs qui évoque la figure de Bokassa. Je voulais vous lire quelques messages avant de conclure. Il y avait Archéduc qui disait: le président burundais est un véritable esclave du pouvoir, oubliant que la démocratie, c'est aussi de l'alternance avec le respect de la Constitution. Merci à tous de votre participation. On arrive quand même à faire ce journal des auditeurs malgré des lignes réduites. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. On nous parlerons du Tchad. Je vous conseille vivement de vous inscrire en nous envoyant votre numéro de téléphone par mail jda@africa1.com. Et vous pouvez également nous laisser toujours des messages sur le répondeur 01 55 07 58 05. En attendant de vous retrouver demain, prenez soin de vous à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule radio africaine. À demain.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.